Bonsoir, Captain Sans Répit pour cette souligner la fête, à savoir révocation mardi dernier de la ministre des Transports et Voies des Communications. Ensuite, publication le week-end dernier du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante semi en sigle. Et enfin, célébration mardi dernier de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Participe à ce débat, trois confrères et journalistes. Il s'agit de Mike Mukubai, le directeur du journal Congo News. C'est un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir, Mike Mukubai.
Bonsoir.
Lucas Kusuma est le journaliste à la radio-télévision digitale Congo et mettant depuis Kinshasa. Bonsoir, Lucas Kusuma.
Bonsoir, Dimas.
Jean-Baptiste Badera est le secrétaire de rédaction de la radio Maïndéléo. C'est une radio qui est née depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Bonsoir, Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati.
Révocation de la ministre des Transports, publication du calendrier électoral et célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kakaka.
Bonsoir. La révocation du gouvernement congolais de la ministre du Transport et Voies de Communication, la publication du calendrier électoral par la CENI, ainsi que la Journée mondiale de la liberté de la presse, figurent parmi les sujets ayant retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Le Phare constate que la cure d'amaigrissement continue au sein du gouvernement Mouzito II. La Bila chasse Marie-Laure Kawanda titre ce quotidien. C'est le quatrième vide qu'enregistre l'équipe gouvernementale après ceux créés par le départ de Philippe Oundji du développement rural, de Nzanga Mobutu de l'emploi, travail et prévention sociale et de Bernard Biando du commerce, indique le Phare. Pour la prospérité, Marie-Laure Kawanda est révoquée suite à une série de naufrages enregistrés ces derniers jours sur le lac Kivu. Pour le confrère, la négligence aura été la plus grande tare de Marie-Laure Kawanda. L'avenir souligne que la révocation de Marie-Laure Kawanda n'étonne pas tellement l'opinion nationale car c'est un membre du gouvernement qui, depuis de moi, était en sursis pour avoir maintes fois fait preuve d'insubordination caractérisée envers ses chefs hiérarchiques. Concernant la publication du calendrier électoral, le potentiel de son côté titre, la majorité présidentielle prend acte et l'opposition politique, incapable de parler d'une seule voix, est prise de court. Tout compte fait, le respect du délai constitutionnel divise encore la classe politique congolaise, souligne ce journal. Le palmarès de son côté rapporte que la publication de ce calendrier électoral est une réponse de la CENI à la menace de l'UDPS. Ce journal affirme par cette occasion que toutes les forces de l'opposition vont sortir une position commune face à ce nouveau chronogramme. Terminons cette revue de la presse avec la célébration en RDC de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'avenir rapporte à ce sujet que la violation de la liberté de la presse est plus qu'un mythe que réalité. Le constat prend son argumentation sur l'absence, selon lui, en RDC, d'un organe indépendant, neutre et apolitique pour évaluer l'exercice de la liberté de la presse. Et faute d'un tel organe, l'évaluation de l'exercice de la liberté de la presse prend des allures partisanes, parfois inutilement alarmantes. Toujours concernant cette journée, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, estime que les médias congolais se sont rapprochés des standards internationaux car il n'y a aucun journaliste incarcéré aujourd'hui, rapporte encore l'avenir. Lambert Mende pense qu'en toute honnêteté, ceci doit faire la fierté du gouvernement et de la profession ainsi que de l'opinion publique.
Merci Samuel Kakaka pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Mike Mukubai, vous êtes auteur du journal Congo News, c'est un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La presse a fait son travail parmi les informations qui ont été exploitées. Il y a aussi cette crise au sein du MSC.
Oh oui, la crise au sein du MSC, je crois qu'elle va aller à crescendo. Hein. Apparemment, François Mamba n'est pas prêt à reculer. Selon la dernière conférence de presse qu'il a donnée à l'hôtel Sultani, on croit comprendre qu'il a décidé d'engager un bras de fer avec Jean-Pierre Bemba via ceux-là qu'il a désigné pour diriger le MLC. Ben, toute la grande question reste de savoir ce qu'il pourra tenir jusqu'au bout dans un contexte où, dans l'imaginaire collectif, les gens ont tendance à assimiler les partis politiques à leurs fondateurs. Et puis un dernier commentaire, c'est quand l'avenir parle de l'absence d'un organe pour évaluer la liberté de la presse. J'ai dit, l'avenir lui-même a été victime. Je me souviens, je me rappelle à l'époque de Laurent Désiré Kabila, des militaires qui ont débarqué à la rédaction de l'avenir et qui ont pris du matériel et du personnel. Et ça, c'est pas, ça ne peut pas être évalué. Il faut qu'il y ait un organisme que l'avenir voudrait créer demain.
Merci, Jacques Cossema. Vous êtes journaliste à la radio et télévision digitale Congo, qui est bien depuis Kinshasa. L'actualité a été aussi dominée par cette incursion de l'armée angolaise au Bas-Congo pour poursuivre les séparatistes du FLEC FAC.
Oui, malheureusement, c'est une information qu'on n'a pas assez exploitée, comme toutes les autres d'ailleurs, parce que mon média, comme les autres confrères, se sont arrêtés au factuel. Il s'agit du calendrier électoral ou encore de la révocation. On s'est arrêté aux annonces, mais quand les gars sont allés en profondeur pour voir un peu les conséquences, faire des analyses plus ou moins objectives et rationnelles sur ces calendriers, peut être respecté à la lettre, personne n'y a vraiment pensé. On n'a pas assez creusé non plus également sur les raisons de la révocation ou même les conséquences qui pouvaient en découler. Mais j'aurais voulu également que cette revue de presse de Radio Kapi sélectionne également la mort d'Oussama Ben Laden comme un des sujets qui ont retenu l'attention de toutes les rédactions du monde. Disons, reconnaissons-les, ça aura tout de même été un événement mondial parce que Ben Laden était présent comme un danger pour toute l'humanité.
Merci Jean-Baptiste Badera, vous êtes secrétaire de rédaction de la radio Maïndéléo, une radio qui est née depuis la ville de Bukavu au sud Kivu. Quelle est l'actualité qui est à la une à Bukavu?
Oui, l'actualité à la une dans cette partie de la République démocratique du Congo reste dominée par l'interpellation à l'Assemblée provinciale du sud Kivu du ministre provincial des Finances. Monsieur Boaz Amango, il a été interpellé par les députés provinciaux pour justement dire comment il compte améliorer la vie sociale des Sud-Kivuciens par rapport au budget 2011. C'est donc là le grand débat. Et une plénière a été organisée hier jeudi. Et à cette occasion, monsieur le ministre a défendu et a cité quelques projets. Certains sont en cours, d'autres sont encore prévus à moyen terme. C'est notamment le parking qui est en train d'être construit dans une partie de la ville de Bukavu. Il a également parlé de la construction de certaines écoles dans la province et dans différents territoires, parce qu'un projet à moyen terme et d'autres à long terme. Il a aussi parlé des travaux de rechargement de certaines routes urbaines, mais aussi des routes de desserte agricole. Et toutes les réponses fournies par M. le ministre n'ont pas convaincu plusieurs députés qui l'ont encore interpellé. Et donc, il sera encore devant les députés provinciaux demain samedi pour justement dire comment est-ce qu'il compte améliorer les réponses qu'il a proposées aux députés provinciaux du Sud Kivu.
Merci. Nous abordons notre premier point de ce soir. Révocation mardi dernier de la ministre des Transports et Voies des Communications. La nouvelle était confirmée par le porte-parole du gouvernement. On reproche alors Marie Kawanda une série de négligences dans ce secteur. Négligence qui est à la base de nombreux morts dus au naufrage. Au sujet du naufrage, la mère Mende parle de plusieurs morts dans celui survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur la rivière Kasai. Suite à la succession de tous ces graves, le gouvernement a décrété depuis mercredi dernier 3 jours de deuil national. On écoute le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, au téléphone de Pélé Kipela Mondo.
Le président de la République vient de signer une ordonnance portant révocation de Madame la ministre des Transports et Voies de Communication. C'est lié à cette série de naufrages qu'on a enregistrés sur nos lacs et nos rivières. Les deux derniers cas étant ceux du lac Kivu il y a un peu plus d'une semaine et ceux de la rivière Kasai qui ont coûté beaucoup de vies humaines il y a quelques jours. C'est donc pour tirer les conséquences de la responsabilité du ministre en charge du secteur que le chef de l'État a décidé de présenter notre collègue, la ministre des Transports et Voies de Communication.
Parlons du dernier cas de naufrage dans la rivière Kassai. Vous avez un peu plus de précisions parce que jusque-là, on n'avait pas de chiffres précis.
Nous n'avons pas encore, en l'état actuel des enquêtes, un chiffre définitif, mais le sinistre est important en termes de pertes en vie humaine. Les recherches se poursuivent et le gouvernement a décidé de décréter un deuil national de 3 jours sur toute l'étendue de la République à la suite de cette catastrophe.
Nous allons lire les lignes de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel qui dit « Révocation de la ministre des Transports au gouvernement, arrow sur l'impunité ». Nous avons le quotidien La Tempête des Tropiques qui dit « Encore une purge au gouvernement et dessous de la révocation de Kawanda ». Nous avons le quotidien L'Avenir qui dit « Joseph Kabila frappe, Marie-Laure Kawanda, ministre des Transports révoquée ». Et enfin, nous avons le quotidien L'Observateur qui dit « Conséquences des naufrages enregistrés sur la rivière Kassai et le lac Kivu, la ministre des Transports Marie-Laure Kawanda révoquée ». Mike Moukebaï, avez-vous été surpris par la révocation de la ministre Marie-Laure Kawanda ou vous vous attendiez à une telle décision?
Non, je n'ai pas été surpris. J'ai eu à parler avec la ministre pendant qu'elle était en fonction il y a quelques mois. C'est une femme de grande valeur. Elle s'était ouverte à moi pour me parler des problèmes qu'elle connaissait au gouvernement.
Quels étaient ces problèmes?
Qu'elle connaissait dans les systèmes préparés. Et moi, je crois que la presse nous demande facilement dans la version officielle. Nous ne faisons pas beaucoup d'efforts et c'est là ce qui est dramatique. Je vais y arriver, c'est très dramatique. Et il y a de personnes de grande valeur que nous devons mettre au devant de la scène pour que ces personnes deviennent des modèles pour notre jeunesse. Nous nous contentons d'aller voir ce qu'ils peuvent nous donner, $10 ou $20 pour écrire. Cette femme est une femme de grande valeur, mais le problème c'est qu'elle n'a pas voulu participer au système. Je crois qu'elle est victime de force occulte du système.
Elle n'a pas voulu participer au système, Samir.
Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. C'est encore frais, elle vient de partir. J'ai eu accès à certaines informations que je ne peux pas lire aujourd'hui. Vous savez, le problème, c'est lequel? C'est que c'est ça, en fait, la pratique dans le pays africain. Le système est en place, il est pourri. Vous entrez dans le système ou vous composez avec le système ou vous sortez du système. Elle, je crois qu'elle a eu tort de chercher à y demeurer sans vouloir danser comme tout le monde dans les systèmes. Elle a payé le prix. Mais regardez, on a cherché pratiquement à l'humilier, on ne lui a même pas laissé la chance de démissionner. Il y en a qui ont fait pire que lui avant.
Apparemment, elle ne s'est confiée qu'à vous. Pourquoi il n'a pas convoqué la presse pour dénoncer certaines choses et par conséquent...
Je l'ai dit à deux niveaux, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle a eu tort de chercher à rester dans le système sans vouloir participer à la sorcellerie du système. C'est ça le problème. Et la sorcellerie du système, qui la connaît, c'est la corruption ici. Elle est ambiante, elle est dans tous les secteurs. C'est ça le grand problème. Donc, elle aurait dû prendre son courage. Peut-être qu'elle avait pensé, je l'ai trouvé assez naïf, vous savez, les gens de conviction sont souvent naïfs. Et je l'ai trouvé assez naïf parce qu'elle croyait qu'elle pourrait se battre pour essayer de changer les choses et elle a payé le prix.
Donc, elle a été accusée injustement.
Injustement parce que nous avons connu pire ici, nous avons connu, excusez-moi de citer un nom, les cas du ministre d'État Koulou, qui avait même utilisé une lettre avec en tête président de la République, alors qu'il est membre du gouvernement, et quand il a fallu voter pour son maintien au départ à l'Assemblée, il y a eu un mot d'ordre à la majorité, et il a été maintenu. Donc, je ne peux pas croire qu'elle a fait pire qu'un Koulou. Non, c'est simplement ça, je peux vous le garantir, simplement parce que cette pauvre dame a voulu se battre pour des valeurs et pour des idées, et c'est regrettable pour le pays.
Et Giscard Kouséma, Marie-Laure Kawanda a été accusée injustement, c'est ce qu'affirme Mike Moukebaï. Mais au vu de cette cacophonie qui semble caractériser le secteur des transports dans ces pays, la révocation de la ministre n'était-elle pas prévisible?
Si, c'était prévisible dans un secteur en pleine déliquescence et dont le principal problème se trouve au niveau de l'État lui-même. Je voudrais d'abord revenir à la décision elle-même. Je souscris totalement à ce que mon collègue Mike a dit tout à l'heure pour affirmer ici que cette décision me paraît injuste. Premièrement, est-ce que la dame participe personnellement et directement à la vérification des embarcations qui se trouvent en province? Et donc, si sanctions il y avait, on pouvait commencer par sanctionner le gouvernement provincial et surtout le ministre provincial qui a ce secteur dans ses attributions. Ça n'a pas été fait au niveau des provinces. Tout le monde est calme. Rien n'est fait. On ne reproche rien au gouvernement provincial. C'est comme si c'est le contrôle de toutes ces embarcations qui sont du domaine exclusif de la ministre nationale.
Il est dit que, et cela est des notoriétés publiques, que les commissaires de navigation dans toutes les provinces font des rapports tous les jours, à tous les chefs, à tous les échelons, et ces rapports arrivent jusqu'à Madame la ministre. Donc elle est au courant de tous ces problèmes qui se posent dans ce secteur.
Mais justement, ok, mais faisons un état des lieux de ce secteur lui-même. L'État dispose de combien d'embarcations ici à Kinshasa? Pour relier Kinshasa en Mbandaka ou à Kisangani, il faut passer par des privés et ces accidents sont quotidiens. Le mal peut-être cette fois, c'est peut-être parce qu'il y a eu un grand nombre de morts dans une même embarcation, mais sinon, lorsqu'on devrait faire la comptabilité de toutes ces embarcations de fortune qui plongent des centaines tous les jours, et peut-être que ces accidents, je voulais dire, ne sont pas assez médiatisés comme ça a été le cas de cette embarcation du Kasaï. Et donc, je pense que c'est au vu des éléments que Mike vient d'avancer, je suis tenté de croire également que cette décision est injuste.
Jean-Baptiste Badera, la ville de Bukavu a été endeuillée récemment par la disparition de plusieurs personnes sur les lacs Kivu. Vous pensez que le départ de la ministre Soutiri pour remettre de l'ordre dans ces secteurs, quand on sait que plusieurs acteurs et à plusieurs niveaux interviennent dans les systèmes de transport, est-ce que le départ de la ministre est une solution?
Pas du tout, ce n'est pas une solution en tout cas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à pareil accident. Le départ du ministre qui, elle, vit à Kinshasa d'abord, ça ne veut rien résoudre au niveau de la province, parce que c'est une question de responsabilité. Elle est à Kinshasa et ce qui se passe au niveau de la base est souvent, la situation que nous connaissons, la situation d'accident qui sont arrivés régulièrement dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Il y a par exemple le fait de la mauvaise applicabilité du décret portant l'élimination des services et organismes publics habilités à gérer aux frontières de la République. Cette décision qui souvent est très mal interprétée au niveau de la base, parce qu'on sait que la décision, les dispositions de cet article ne sont applicables aux services, organismes publics chargés de la gestion des frontières portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ou de transport international des marchandises. Autrement dit, par exemple, pour ce qui est du transport aérien, la RVA doit rester à l'aéroport. Pour ce qui est de ports et aéroports, et des ports, par exemple, on doit encore voir certains agents de services de transport qui sont affectés là-bas et qui doivent, par exemple, voir veiller au nombre de personnes qui sont embarquées dans les différentes embarcations dans des bateaux. Ils doivent veiller à la présence à bord d'outils et des matériels nécessaires pour la navigation, par exemple, les gilets de sauvetage, ou encore veiller à la présence ou au maintien de la discipline dans l'ensemble du port. Mais qu'est-ce qu'on constate? Par moment, on voit que dans les ports, il y a des agents qui sont là-bas, qui ne sont pas habilités à faire le travail et qui doivent être laissés par un autre professionnel. Et curieusement, on constate même que deux, trois jours après le naufrage, on ne sait même pas savoir le nombre d'exemples de personnes qui étaient à bord des embarcations. Et aussi, il y a la question des qualités des embarcations qui naviguent sur le lac Kivu, par exemple, où on a compté aujourd'hui plus de 30 morts il y a presque une semaine et demie sur le lac Kivu. Donc, il y a tout un problème au niveau de la base et le seul départ de Mme la ministre ne peut pas suffire pour dire que non, la question est résolue parce que, comme l'a dit Mike, même comme l'a soutenu mon confrère Giscard Kouchema, le départ du ministre ne suffit rien parce qu'il y a des choses, des responsabilités qui devraient être partagées au niveau de la base. On a commencé justement par le sommet parce qu'il y a, dans ce qui se passe au niveau provincial, il y a à boire et à manger.
Mike Mukebayi, vous avez évoqué les fonctionnements du système. Et selon certains experts, il faut réviser la législation et la réglementation des transports qui datent de 1957.
Mais ce n'est pas seulement un problème qui touche au secteur des transports, c'est un problème qui touche à plusieurs secteurs de la vie nationale. Et moi, quand j'ai vu venir la première législature de la Troisième République, je m'étais dit c'était le moment de bâtir l'État, mais nous n'avons pas assez fait. Est-ce que c'est seulement la responsabilité de l'Assemblée nationale ou également du gouvernement qui n'a pas assez donné de projets de loi à l'Assemblée nationale? Mais je crois que c'est une responsabilité partagée au niveau
des institutions qui n'ont pas réussi à placer la République démocratique du Congo au niveau des États modernes sur le plan législatif. Regardez les temps que nous avons pris juste pour adhérer à l'OADA, ça nous a pris 4 ans, il y a eu des débats interminables, et maintenant que nous y sommes, nous traînons encore le pied pour passer à l'exécution. Je crois qu'il nous faut peut-être revenir, je ne sais pas si ce serait la meilleure des solutions, revenir aux recommandations de la Conférence nationale souveraine, ou peut-être inviter à des nouvelles réflexions sur la situation de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la législation. Nous avons accumulé beaucoup de retard dans beaucoup de domaines. On parle de transports et communications, mais si vous allez dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la nouvelle technologie, il n'existe presque pas de législation ici en République démocratique du Congo. C'est très très grave, je crois que c'est une très grave défaillance. Il nous faut peut-être espérer demain avoir des gens beaucoup plus visionnaires qui puissent comprendre les enjeux en ce qui concerne cet aspect fondamental de la vie nationale.
Giscard Kouchtema, c'est un secret de Polynésien. Je vois des navigations ne sont plus ni balisées ni désensablées.
À l'image justement des entreprises de l'État qui sont censées s'occuper de ces secteurs. Faites un tour à la RVF qui ne s'est plus désensablée, les plaies, les balisées, et l'ONATRA qui devait mettre à la disposition du public des embarcations de qualité également, étant des licences. Et donc tout ça concourt un peu à ces histoires. Je voudrais également revenir sur le propos tenu tout à l'heure par Jean-Baptiste Badera pour dire que le seul départ de Marie-Laure Kawanda ne suffit pas. Marie-Laure est partie, faites le tour en ce moment au beach de Kinshasa, vous verrez toutes ces embarcations de fortune en train de fonctionner normalement et de
provues
et aussi et d'ailleurs encadrées par les services de l'État. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y a eu un mouvement de grève des armateurs du Sud Kivu, de Bukavu. Le trafic était coupé entre les villes de Bukavu et Goma. Les conséquences, on les sait. Et donc, on ne peut pas imaginer les deux villes voisines, donc Bukavu et Goma, vivre sans ces embarcations, là où l'État ne dispose même pas d'une petite pirogue. Et donc, le problème ne se trouve pas au niveau de la législation. Avant de penser légiférer autrement, commençons d'abord à respecter celles qui existent. Et donc, c'est un système, c'est vrai, dont le responsable se trouve à tous les niveaux et non pas seulement au seul niveau de dame la ministre.
Alors, comme c'est connu de tous, c'est un problème d'incurie ou de manque de volonté et de négligence.
Le tout à la fois.
Jean-Baptiste Badera, il se pose aussi un problème du personnel qualifié parce que, vous savez, l'école de navigation de l'ONATRA avait comme vocation de former ces personnels, mais cette école depuis plusieurs années est fermée.
Oh, tout à fait, hein, c'est là la question, parce que les agents qui sont commis à la garde par rapport au départ et aux arrivées des bateaux, par exemple dans les ports, il faut un minimum de formation. Et c'est là le devoir que devait faire, par exemple, le ministère des Transports et voies de communication. Mais ce n'est pas à partir de Kinshasa que cela devrait être fait. Kinshasa devrait contrôler à distance, mais l'application de toutes les mesures devrait être faite par ceux qui sont au niveau des provinces, au niveau des ports. Et c'est là la question, parce que il n'y a plus de gens qui font ça. Il y a des influences par-ci, par-là. Il y a le fait qu'il y a la légèreté dans le chargement des marchandises. On voit des gens qui sont entassés à côté des sacs de haricots, des sacs de maïs, du ciment, avec des véhicules. C'est tout un problème. Donc il y a vraiment tout un travail de professionnalisme qui devrait être fait au niveau des professionnels qui sont en train de travailler dans les ports de la République démocratique du Congo. Par exemple, aujourd'hui, on peut encore voir une embarcation en bois sur le lac Kivu et qui doit desservir deux provinces, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, comme l'a étayé Giscard Kouchtema, ce qui est tout à fait incroyable. Au XXIe siècle, il y a des bateaux qui ont été envoyés par le gouvernement central au Sud Kivu. C'est d'ailleurs là le débat aujourd'hui à l'Assemblée provinciale. On demande au gouvernement provincial de venir expliquer aux députés provinciaux, notamment ceux des Canets et Didi, à quoi servent ces bateaux, mais aussi les bateaux qui devraient les servir, qui devraient arriver à désenclaver le Didi et le territoire des Canets.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Publication le week-end dernier du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante semi-ensible. Le calendrier des élections générales a été publié samedi dernier. Il prévoit le vote du président de la République et des députés nationaux le 28 novembre de cette année. Selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la publication des résultats provisoires de la présidentielle interviendra le 6 décembre 2011, alors que la prestation des serments du nouveau président élu interviendra le 20 décembre, soit 2 semaines après le mandat du président actuel. Le président de la CENI estime que pendant cette période, il n'y aura pas de vide juridique. On écoute le révérend pasteur Ngoï Mulunga au micro de Dona Madimba.
Les dates suivantes sont à souligner. Le 4 août 2011, convocation de l'électorat et l'inscription des candidats pour l'élection présidentielle et la députation nationale. Donc, avant 90 jours prévus par les précis de l'article 73 de la Constitution. Le 7 septembre 2011, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et à la députation nationale. Donc, 90 jours précisément, tel que stipulé par les prescrits de l'article 73 de la Constitution. Le 28 novembre 2011, élection présidentielle et à la députation nationale. 6 décembre 2011, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Annonce intervenant le jour de la fête du mandat du président en exercice. 20 décembre 2011, prestation du serment du président élu. 25 mars 2012, élection provinciale. 4 juillet 2012, élection de sénateur. Et 21 juillet 2012, élection de gouverneur de vice-gouverneur.
Notez que le processus électoral ira jusqu'en 2013 avec l'élection des conseillers municipaux, des conseillers des secteurs et des chefferies le 5 février 2013, qui vit le 1er mai de l'élection des chefs de secteur, des bourgmestres et conseillers urbains. Enfin, on note que l'élection des maires des villes et leurs adjoints aura lieu le 24 juin 2013, selon toujours le calendrier publié ce samedi par la CENI. Jusqu'à Kousema, la publication du calendrier électoral, c'est une nouvelle qui était attendue. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle?
J'ai réagi très positivement parce qu'il y a là deux leçons à tirer. Tout d'abord, il était temps donc de mettre à la place publique un chronogramme sur lequel tout le monde devrait se référer parce que beaucoup pensaient qu'on a vidé à vue. Et donc, ce calendrier est venu un peu vider l'argument de tous les sceptiques qui pensaient que ces élections n'auront pas lieu, et surtout pas en date prévue. Deuxièmement, c'est la deuxième leçon, c'est que le consensus l'a emporté un peu sur toute autre forme de prise de décision. Vous le savez, un débat houleux qui traînait déjà par le sein de l'opinion publique sur le scrutin. Au moins, avec ce calendrier, on est sûr que l'élection présidentielle est coupée aux législatives, et c'est ça justement le grand consensus, c'est à mettre à l'actif peut-être du bureau de la CENI, c'est que au moins la voix des opposants qui avaient été consultés bien avant cette publication est passée, et peut-être que si on était passé par l'Assemblée nationale ou le Sénat, on ne serait peut-être pas arrivé forcément au même résultat. Et donc c'est une forme de pression maintenant sur tout le monde, parce que chaque jour, on prend son calendrier, on vérifie l'événement prévu le jour même, et donc le non-respect d'une seule date entraîne ipso facto des perturbations sur les restes. Et donc maintenant, c'est le piège également de cette annonce avec pompe. Autant il y a eu cette annonce avec pompe, autant également on sera très sévère maintenant sur l'application stricte de ce calendrier, parce que suivant ce calendrier sur papier, au moins les élections sont déjà organisées, tout est là, oubliant qu'il y a d'autres présenteurs, d'autres politiques et surtout logistiques.
Maître Moukébaye, selon Kousema, le mérite de ce calendrier, c'est qu'il vide les arguments des sceptiques, et aussi nous savons que nous aurons les élections cette année.
Non, il faut craindre que ce soit un calendrier qui a été élaboré dans l'unique but de baisser, de faire tomber la tension. Il faut craindre. Parce qu'en fait, Ngoï Mulunga lui-même, le pasteur, quand on l'écoute, on se rend compte qu'il n'est pas autant optimiste. Parce que le problème, c'est qu'il faut changer de technologie, passer au VSAT. et ça demande de l'argent. Nous, chez nous, Congolais, nous avons il y a quelques semaines, quelques mois, interviewé un grand connaisseur en la matière, Jean Bonso, le président de la DINELIC, qui nous disait qu'il n'était pas possible, avec argument à l'appui, d'avoir l'élection cette année, à moins de passer à une autre technologie. Et c'est ce que propose Ngoï Moulouda, s'il a le moyen de cette nouvelle technologie. Donc, à proprement parler, nous allons juger qu'à l'endrier de Ngoï Moulouda, dans un ou deux mois, s'il peut respecter le premier date, nous pouvons nous dire, comme l'a souligné Koussema, s'il respecte les premières dates, nous pouvons dire, tiens, c'est bon. Mais si déjà, là, demain, et comme l'enrôlement va démarrer à Kinshasa, si à la fin de cet enrôlement, il faut procéder à une prolongation, ça va avoir des répercussions sur ce calendrier. Je reste en tout cas sceptique. Je suis parmi ces sceptiques-là, je reste très très sceptique. Et je crois que nous attendons la réponse de l'opposition aujourd'hui qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais ce qui a encouragé, Koussema l'a souligné, je le partage, c'est le couplage de l'élection présidentielle et des législatives. On avait déjà vu le pourparlers AMP qui avait été le premier à dire qu'il ne faut pas faire un tour faute de moyens. Les mêmes sont revenus pour dire que nous allions commencer par l'élection présidentielle, quitte à organiser les législatives par la suite, ce qui était contradictoire pour des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de moyens. Heureusement que le passant Ngoï Moulouda n'a pas suivi cette voie et qu'il a concédé aux revendications de l'opposition, qui sont d'ailleurs légitimes, parce que déjà en 2006, nous avions créé cette habitude de coupler. Donc ça, c'est quand même à mettre à la touffe de la CENI. Pour le reste, moi, je reste sceptique. J'observe dans un mois et dans deux mois, ou dans deux mois, nous pourrons nous faire une opinion pour nous dire nous respectons ou pas le délai constitutionnel. Mais je tiens à dire une chose, il n'appartient pas au passant Ngoï Moulouda de dire non, il n'y aura pas de résidus juridiques. Il n'a pas à faire des interprétations politiques qui sont contentes de son travail de technicien. Parce que le calendrier qu'il nous donne, si nous voulons être stricts, il déborde déjà du délai constitutionnel. Le délai, c'est une date. Quand vous dépassez d'une seconde, vous avez débordé.
Jean-Baptiste Valera, l'un des enjeux de ces calendriers, c'est sur sa conformité à la Constitution. Mike Mokeba l'a évoqué. Vous avez suivi le président Ngoï Moulouda qui dit que les calendriers ne violent pas la Constitution.
Oh, ben, quelque part, je commence d'abord, comme on l'a dit jusqu'à ce moment, par saluer la sortie de ce calendrier qui, en fait, se constitue un document de bord sur lequel on va se baser pour la suite du processus électoral en République démocratique du Congo, parce que il y avait déjà pas mal de rumeurs en rapport avec, par exemple, la formation d'un gouvernement d'union nationale, des négociations encore en vue entre politiciens. Voilà, ça avait un côté court aux rumeurs selon lesquelles les élections ne seraient pas organisées en 2011 en République démocratique du Congo. Et qu'en rapport avec le respect de la Constitution, certes, il y a le fait que le nouveau président ne sera plus investi le 6 décembre 2011 comme prévu. Et donc, il y a là un décalage. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'abord la sortie de ce calendrier, parce que, comme on dit, par impossible n'est tenu, sauf que la grande préoccupation reste la longueur de ce calendrier, parce que c'est très élastique. Il faut, par exemple, voir que les maires des villes seront seulement investis au mois de juillet 2013, ce qui est très long. Ce sera seulement à 3 ans de la fin de la législature, et qui va peut-être gêner le nouveau pouvoir ou le même pouvoir qui va rester en place dans le pays, parce qu'il n'est pas évident que ceux qui seront là ou la famille qui sera là va conjuguer très facilement avec les autorités provinciales qui, à mon avis, auront encore un délai assez suffisant pour continuer à gérer ce qui va donner quelque part. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a maintenant un effet de route sur lequel on va se baser pour la suite du processus.
Juste rapidement, comment vous entrevoyez l'après 6 décembre? Il y a des hommes politiques qui proposent des concertations.
Malheureusement, je ne suis pas juridique, parce que là, il y a une question essentiellement juridique sur le non-respect de la date. Mais le plus important pour moi, je pense, c'est le fait que la CENI reconnaisse tout de même, parce que après la publication, le président du bureau de la CENI a fait des commentaires, même s'il n'en avait pas compétence, au moins, c'est le fait de reconnaître qu'on est au-delà du délai constitutionnel. Donc, ça, c'est une question essentiellement politique, à mon avis, et il appartiendra donc aux politiciens de trouver des mécanismes pour, si je peux me permettre, un viol collectif de la Constitution. Et donc, il faudra trouver des mécanismes de voie de compromis.
Malcolm Zebali, les concertations qui sont proposées par certains hommes politiques pourraient avoir le mérite de prévenir le chaos ou l'impasse.
Bon, le plus fondamental, c'est de trouver un compromis. Si ce calendrier est respecté, du 6 à l'investiture du président, nous, on ne voit pas pourquoi on doit passer à des concertations, mais la grande crainte, c'est que le calendrier ne soit pas respecté. Si le calendrier n'est pas respecté, on va se retrouver en face de deux ou trois hypothèses. Une hypothèse que l'opposition refuse de participer à un gouvernement d'union nationale, et on a vu la tension qu'il y a eu au stade Tata-Raphaël le 24 avril dernier, c'est que certains pensent à des mouvements sociaux du type Tunisie ou Égypte. Mais je crois que nous n'avons pas besoin de ce genre de mouvement ici. Nous avons déjà connu assez de problèmes, parce que en fait, ces mouvements-là vont nous amener à une nouvelle transition, et à mon point de vue, une perte de temps. Tant mieux s'il y a des partisans de ces mouvements-là, moi je n'ai rien contre eux. Moi je pense que nous avons commencé avec des processus électoraux, qu'il faut multiplier les cycles électoraux pour que nous arrivions à maîtriser notre démocratie. Donc la solution la plus envisageable à mon point de vue, c'est un gouvernement d'union nationale à mettre en place, mais il semblait que le TPRDANP n'était pas très favorable, parce qu'il disait que le président Joseph Kabila était élu, que s'il y avait dépassement du délai, le président Kabila pouvait continuer à gérer. Mais je crois que ça, ce serait la pire des choses.
Que... Il y a une disposition et la constitution qui prévoit cela.
Non, je vous en prie, nous devons comprendre ce que c'est le bon sens. C'est que quand vous arrivez aux affaires, on vous dit, écoutez, je prends un bête exemple rapidement. Je sors d'ici, je prends une pierre, je lance sur une voiture de la MONUC, je suis arrêté et jugé parce que j'ai violé la loi. Mais quand vous arrivez aux affaires d'État et qu'on vous dit que les élections sont organisées dans tel délai, c'est une contrainte à respecter constitutionnelle. C'est une infraction si vous ne la respectez pas, cette contrainte. Vous pouvez traduire en justice. Heureusement que c'est politique, on vous laisse la liberté. La liberté de faire quoi? La liberté de trouver un compromis politique pour que le pays ne dérive pas.
Merci, notre dernier thème de ce soir. Célébration mardi dernier de la journée mondiale de la liberté de la presse. Mardi 3 mai dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Une célébration cette année en République démocratique du Congo à quelques mois des élections générales. À l'occasion, l'aide de cette ONG de défense et promotion de la liberté de la presse a demandé au gouvernement congolais d'envisager dès à présent des mesures concrètes de sécurisation des professionnels des médias. Ceci face à la montée de l'intolérance politique et aux interférences de plus en plus fréquentes des services de sécurité dans le travail de la presse selon cette ONG. La demande des aides est formulée dans un communiqué publié à la veille de cette journée. Les détails avec Innocent Olenga.
Avec les élections prévues le 28 novembre prochain, GED voit déjà une perspective qui ouvre la voie à des grandes manœuvres politiques pour lesquelles les médias seront un enjeu de taille pour les différents protagonistes et où les risques d'atteinte à la liberté de presse seront nombreux. Bien que félicitant les gouvernements congolais du fait qu'en cette journée dédiée à la liberté de la presse, aucun journaliste congolais n'est propice en prison à cause de son travail, GED dénombre quand même 35 cas d'attaques directes dirigées contre les journalistes ou les médias depuis le début de cette année. La majorité de ces atteintes a été enregistrée à l'intérieur du pays et l'ONG ne s'empêche pas de pointer du doigt les autorités politico-administratives et surtout l'ANR, Agence nationale de renseignement. GED appelle néanmoins les professionnels des médias à la plus grande prudence et à l'observance stricte du code d'éthique et déontologique qui propose d'initier dans les tout prochains jours une campagne de sensibilisation sur la sécurité des journalistes en période électorale à Kinshasa et en province.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes secrétaire des rédactions de la radio Mangaleo, une radio qui est née depuis Bukavu au sud de Kivu. Comment cette journée de la liberté de la presse a été célébrée à Bukavu? Nous savons que c'est une ville qui a connu en 2007 2008 des assassinats des journalistes, parmi lesquels il y avait des journalistes de la radio Okapi. Comment vous avez célébré cette journée à Bukavu?
Cette journée a été célébrée à Bukavu. Les journalistes de cette partie de la République démocratique du Congo se sont retrouvés pour réfléchir et trouver des pistes de solutions par rapport à leur métier. C'était organisé par l'UNPC, la presse du Congo, et à cette occasion, les journalistes ont fait un répertoire de toutes les difficultés qui nous endurent dans le dossier de leur métier. C'est notamment l'intolérance et l'interférence des hommes parfois politiques dans les affaires de façon des médias. Il y a également l'émergence aujourd'hui, la naissance de plusieurs médias avec ce que cela a comme difficulté, comme vous le savez. Il y a aussi une question de formation, de recyclage, mais surtout il y a le fait que nous sommes dans une année très très particulière parce qu'une année électorale, et donc les gens des médias ont réfléchi ce mardi-là par rapport à la façon dont ils devraient se comporter, par rapport à la façon dont ils devraient traiter l'information. Bref, c'était une belle occasion pour se rafraîchir la mémoire sur les notions élémentaires du journalisme.
Giscard Kousséma, vous êtes journaliste à la radio-télévision digitale Congo, qui est née depuis la ville de Kinshasa. Les journalistes congolais travaillent dans des conditions matérielles et environnementales difficiles, et cela doit inévitablement impacter sur sa liberté d'expression.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces constats, mais je ne voudrais pas tout de même prendre pour mon compte ce discours qui pense que parce que il n'y a aucun journaliste arrêté ou emprisonné en 2011, donc tout va bien en République démocratique du Congo et qu'on a déjà atteint les standards internationaux. Non, c'est la pression, justement, je ne suis pas de cette presse-là, parce que les pressions psychologiques que nos journalistes endurons jour le jour sont beaucoup plus graves aussi que l'emprisonnement. Et donc, il s'agit d'une forme d'emprisonnement psychologique également. Et donc, les pressions et tout ce qu'il y a comme menace, la super censure, sont aussi des formes de pression. Et donc, moi, je pense que dans ce domaine, il y a beaucoup à faire lorsqu'on connaît d'abord les conditions matérielles dans lesquelles travaillent les journalistes congolais. Nous sommes tous assujettis aux sources d'informations qui imposent leurs normes. Et donc, comme je l'ai toujours dit, au-delà des critères rationnels de sélection d'informations, il faut ajouter maintenant les impératifs pécuniers qui concourent également à la sélection des informations. Et donc, ne sont sélectionnées que les informations qui sont prises en charge. Et donc, lorsqu'il y a une information aussi importante soit-elle, mais qui n'est pas prise en charge par un sponsor, et donc cette information n'est pas relayée. C'est aussi une forme de pression psychologique.
Mike Mokibay, vous êtes directeur du journal Le Congo News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'ONG JED s'est saisie de cette occasion pour interpeller les pouvoirs publics. Pensez-vous que l'appel de JED sera entendu?
Oh, je ne crois pas beaucoup, je ne crois pas beaucoup. Vous savez, quand les gens parlent de la liberté des standards internationaux, on ne peut pas parler des libertés de presse là où la presse est incapable de dénoncer des faits de malversation et de corruption. La corruption a gangréné la société, mais essayez de parcourir la presse chaque matin, vous ne verrez rien qui concerne la corruption. C'est qu'on est arrivé à une nouvelle forme de pression sur la presse qui est beaucoup plus pernicieuse. C'est que nous avons subi des pressions, des menaces de tous genres, et maintenant nous avons signé comme une sorte de pacte avec le personnel politique. Il y a des questions sur lesquelles nous n'écrivons pas. Ça, c'est clair. Et nous sommes, nous, devenus une greffe de la corruption, parce que nous en vivons. Quand nous allons vers le personnel politique, quand nous allons vers les opérateurs, nous recevons ce qu'on appelle coupage. Et ce coupage, cet argent qu'on nous donne vient d'où? Il ne vient pas des revenus ordinaires du personnel politique. C'est beaucoup plus dangereux si on n'y prend pas garde. Et ça, je mets en garde. J'ai discuté avec Donat plus d'une fois. Si on n'y prend pas garde, on risque d'aller vers un discours lénifiant en se disant il n'y a pas de journaliste en prison, alors qu'en réalité, nous sommes allés en train d'aller vers la pire de privation de liberté. Nous sommes en train, nous, de devenir complices du personnel politique. Donc là, il y a une autocensure grave, sérieuse dans chaque rédaction. Il y a des individus sur lesquels nous n'écrivons pas de personnalité. Et c'est connu, tel, je ne vais pas citer de nom ici, telle personnalité, on n'écrit jamais sur lui. Et le jeune qui vient, Fougo, qui tombe, quand il vient avec le produit du Yolingo Lukamakambo en rédaction, nous le savons en quoi il y a liberté. Et ça, c'est partagé dans toutes les rédactions. Ayons le courage de le dire. Et c'est là que je dis que je fasse attention, sinon nous risquons, nous, d'applaudir à demain, et les autres disent bon, voilà, les esclaves qui pensent qu'ils sont libres.
Merci, c'est la fin de cette émission. Minitune était à la technique et Kelly Kouté à la réalisation assistée de Samuel Fakat sous la supervision de Martin Sebouzangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.